Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion et vous avez bien raison, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité qui signe chez Ellipse un ouvrage, un essai intitulé « 50 jours pour comprendre autrement le vin ». André Derieux, bonjour André.
Bonjour Yannick, bonjour.
Merci d'être aujourd'hui devant le micro de Livre en Vigne, le micro de Livre en Vigne, lapsus révélateur, puisque cette émission a été enregistrée lors de la 13e édition de Livre en Vigne le 26 septembre dernier. Nous sommes à Vougeot, belle commune, alors on dit quoi, vinicole, viticole?
Ah, vitivinicole.
Vitivinicole.
Parce que viti, c'est la culture de la vigne et vigny, c'est l'élaboration du vin, traditionnellement.
Je vous présente notre invité, André Derieux. Alors, pionnier de l'œnotourisme, créateur du site Wine Tourism in France. L'ai-je bien dit, André?
Oui, il faut le dire comme ça, oui.
Consultant expert en valorisation des patrimoines œnoculturels et des vignobles, vous avez publié à la rencontre des cépages modestes et oubliés. On avait enregistré il y a quelques années une petite séquence
oui,
à Livre en Vigne dans la cour du château. Et puis cet ouvrage, à la rencontre des cépages modestes et oubliés, avait été couronné par le prix Livre en Vigne, un prix Livre en Vigne. Et couronné, s'il vous plaît, par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. André Derieux, présentation assez sommaire. Y a-t-il d'autres éléments que j'aurais dû mentionner pour mieux vous présenter à nos auditrices et auditeurs?
C'était déjà une très jolie présentation. C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait dans d'autres vies, j'ai été consultant en stratégie pour des entreprises et notamment pour leur système d'information. Et puis, à un moment, j'ai décidé de me consacrer à un domaine que j'aime, qui est la vigne, qui est le vin, et de voir ce que je pouvais faire pour me rendre utile dans ce domaine qui ne manque pas de têtes pensantes et de gens très agissants et de gens très, très efficaces. Et je me suis aperçu, c'était en 2005. 2005, c'est 2 ans avant le moment où un certain Paul Dubrulle, qui était sénateur, qui était une figure importante du tourisme et du vin. Paul Dubrulle a rendu son rapport sur le no-tourisme, un rapport commandé par le gouvernement. Donc on était au tout début de le no-tourisme, d'où l'expression de pionnier de le no-tourisme. Et je me suis dit, comment rendre service au monde de la vigne et du vin? Je me suis dit, voyons ce qu'on peut faire dans ce domaine de l'œnotourisme. Je me suis lancé effectivement dans cette activité avec le magazine Internet dont vous avez parlé et aussi des activités de conseil dans ce domaine-là.
Cet essai, André Derieux, 50 jours pour comprendre autrement le vin. Je m'arrête sur l'adverbe « autrement ». Comprendre autrement le vin. Alors, quelle est l'ambition de cet essai, je rappelle, disponible chez Ellipse?
Alors, ça rentre toujours dans cette démarche de réflexion stratégique pour le monde du vin. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de... On va dire que ça patine un petit peu au niveau de la consommation, même si le marché, même si l'offre, même si la demande augmente au niveau mondial. On s'aperçoit qu'en France et dans certains pays, d'autres boissons peuvent être préférées très rapidement au vin. Et la réflexion, c'est de se dire que finalement, dans les clientèles du vin, dans les cibles que l'on vise, il y en a 3 sortes. Il y a la cible des œnophiles, des amateurs de vin, de ceux à qui on peut parler d'appellation, on peut parler de fermentation malolactique, on peut parler de levure, on peut parler de toutes ces choses-là, de viti et de viniculture. Dans la mesure où on s'adresse à des passionnés. Et ça, on le fait assez bien, le monde du vin le fait assez bien. On va dire que le continent œnophile est bien exploré et bien exploité. Et puis, il y a une deuxième clientèle qui est une clientèle dont j'espère nous faisons partie tous les deux, qui est celle des épicuriens. et qui se satisfait de passer des bons moments dans les vignobles, parce que ce sont des cadres paysagers, ce sont des cadres d'art de vivre formidables, de passer des bons moments dans les vignobles pour boire des bons vins, pour déguster des bons produits de terroir, pour passer de bons moments. Et cette clientèle d'épicuriens, toujours en termes de stratégie, d'approche et de conquête, c'est celle qui a fait la croissance du secteur de l'œnotourisme depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. On s'est aperçu, bon, ça c'était juste avant le Covid, on s'est aperçu que dès qu'on faisait un événement un petit peu festif, un petit peu sympathique, cette clientèle d'épicuriens répondait présent. Et on a effectivement des grands événements, mais plein d'autres petits événements qui se sont créés dans ce cadre-là. Et j'en viens à cette troisième clientèle qui fait un petit peu la base de réflexion de mon travail et puis de cet essai. C'est la clientèle des gens curieux, des gens qui s'intéressent à plein de choses et qui ne sont pas forcément tournés tout de suite vers le vin. On a des gens qui évidemment se déplacent dans des régions en voulant découvrir les traditions de la région, les châteaux, les églises, l'histoire, etc. Et cette clientèle-là, bah, le monde du vin ne leur parle pas assez aujourd'hui. Et donc, c'est curieux puisqu'on a, à côté du côté œnophile, on a un côté culturel du vin qui est considérable. On a un continent culturel aujourd'hui qui est inexploité et qui n'est pas mis au service de stratégies qui pourraient nous servir à conquérir d'autres types de consommateurs et d'autres types de clientèle. Et donc, cet ouvrage, Comprendre autrement le vin, c'est le mettre sur le plan culturel, au sens le plus large possible, et puis raconter, montrer comment est-ce qu'on peut valoriser tous ces patrimoines, tous ces héritages de la vigne et du vin.
Alors, votre essai, André Derieux, est, disons, réparti en trois grands chapitres. Hein. Le premier, vignobles et dégustations. On a un chapitre histoire, que personnellement, je trouve absolument passionnant. Et puis, l'aspect aussi culturel, parce que ce que l'on oublie, c'est que le vin est intimement lié à l'histoire à la fois de la religion et de notre France.
Bien sûr.
Alors, il l'est encore, certes, mais peut-être a-t-il perdu les symboliques, la force et le travail qu'il offrait jadis à un grand nombre de travailleurs dans les vignes.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que tout ça a évolué. Alors, bon, ce classement en trois parties, il pourrait y en avoir d'autres, parce que si on traverse les différents chapitres, on pourrait avoir une lecture chronologique finalement du livre, hein, avec ses différents chapitres qui peuvent commencer évidemment à l'époque gauloise ou romaine. L'époque gauloise, par exemple, on a un dieu qui s'appelait Sucellus et qui était le dieu de la boisson, le dieu de la tonnellerie, le dieu qui aussi faisait passer de la mort de la vie à la mort et de la mort à la vie à coup de maillet, ça ne s'invente pas. Et on pourrait comme ça traverser toute l'histoire. Donc on peut avoir une autre lecture de ces 50 jours avec des lectures thématiques qui portent effectivement, ben voilà, on a la littérature. Je pense très important de voir ce que Proust pensait du vin, comment est-ce qu'il décrivait le vin. C'est un reflet absolument du monde de Proust. Donc
même
c'est
s'il
très
était plutôt un buveur de Porto.
Même si c'était, vous avez lu effectivement cet aspect-là, un buveur de Porto. Mais il y a d'autres personnages qui parlent du vin, qui montrent la place du vin dans son milieu. Pareil pour Balzac. On a une vision dans Balzac d'un moment très très important qui est méconnu, qui est sous-estimé, qui est très important dans le domaine de la viticulture, c'est la vente des biens nationaux. On a un exemple autour de nous ici avec le Claude Vougeot, hein, qui a été vendu et qui, c'est pour ça qu'au fil du temps, il s'est retrouvé morcelé entre, je crois, 50 propriétaires aujourd'hui. Et dans Balzac, on a des gens qui se sont enrichis. Le père Grandet, par exemple, s'est enrichi de l'achat, on pourrait dire d'avoir profité finalement de cette vente des biens nationaux. Donc on a au travers des écrivains un portrait de leur milieu, de leur époque, et qui est tout à fait intéressant dans l'approche du vin. Pourquoi ? Parce que toutes ces leçons historiques, on en prend, on en laisse, mais il y en a beaucoup qui sont porteuses de leçons et qui peuvent nous servir aujourd'hui ou dans l'avenir.
Votre approche, André Derieux, est une approche très, très française, même si vous n'ignorez pas d'autres pays européens. Mais il ne faut pas oublier, et ça je l'ai relevé, que dans le monde, il y a 10 000 cépages et variétés de vins.
Voilà, ça c'est effectivement un de mes autres, ça rejoint un de mes autres centres d'intérêt, parce que ça fait partie des patrimoines et des héritages de la vigne et du vin. Vous avez cité cet ouvrage qui est la résultante du travail que l'on fait depuis 10 ans avec l'association des rencontres des cépages modestes, et où on aide, on accompagne les vignerons par ces rencontres à valoriser ces cépages historiques. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques grands cépages internationaux de standards qui se sont imposés dans pas mal de vignobles, qui ont failli esquinter complètement le vignoble grec, le vignoble français aussi, et qu'aujourd'hui, on se rend compte de cette diversité, de cette richesse. Je pense inconcevable pour le monde, pris dans son ensemble, de se dire on a une richesse colossale, ben non, on va s'asseoir dessus et on va se contenter d'utiliser 2 ou 3 cépages ou 2 ou 3 espèces, 2 ou 3 variétés, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine des tomates ou des pommes ou des poires, etc. Donc là aussi, cet apport de cette orientation, on va dire, œno-culturelle ou culturelle, ça permet de dire on a des richesses, on a des héritages qui, c'est pas simplement du passé, c'est pas simplement être passéiste que de mettre ça dans des conservatoires et de montrer ça dans des musées. C'est au contraire de dire non, ça peut être une richesse pour l'avenir. On n'a pas le droit de se priver de cette richesse-là. Donc effectivement, l'ouvrage est tourné vers la France pour le moment. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un deuxième tome par la suite qui soit ouvert sur l'international.
En tout cas, c'est un patrimoine. Les vignobles français font partie du patrimoine de notre pays. Alors, avec les modifications climatiques, est-ce que ce patrimoine peut être entamé, abîmé et pourquoi pas se réduire ? Alors, de même que la pierre s'use, qu'on réhabilite des églises, on nettoie, on entretient, mais le vignoble, c'est le travail, certes, des vignerons tous les jours, mais est-ce que les vignobles sont menacés avec ce réchauffement de la planète ? Grand débat, André Derieux.
Alors, il y a plusieurs aspects sur cette question. Effectivement, les patrimoines, c'est aussi l'importance de la méthode de travail que j'ai développée. On parle de patrimonialisation, on parle de valorisation de ces patrimoines, notamment par le storytelling. On parle de marchandisation de ces patrimoines sur le plan, par exemple, no touristique, ou sur le plan de la création de cuvées ou des choses comme ça. Donc dans ces 3 étapes-là, la première, c'est l'étape de patrimonialisation. Il s'agit effectivement de reconnaître ces patrimoines, de les retrouver, de les valoriser. Mais il y a aussi une part importante, ce que vous avez dit, ces patrimoines, ils sont menacés. On a des patrimoines paysagers, on peut rentrer dans des débats un peu lourds là, mais on a des patrimoines paysagers qui sont menacés par des éoliennes ou qui sont menacés, on le voit dans des villes pas si loin d'ici, qui sont menacés par leur zone artisanale ou leur zone commerciale qui constituent quand même des pollutions visuelles importantes. Des patrimoines qui sont menacés par des travaux qui sont faits ici ou là, une urbanisation ou une transformation, la destruction de murets, la destruction de terrasses, etc. etc. On ne va pas les citer. Chaque patrimoine de la vigne et du vin, comme tous les autres patrimoines, sont effectivement menacés. Sur le plan des patrimoines et des relations climatiques, on peut dire que si on regarde les choses très, très factuellement, très simplement, il y a eu des montées et des descentes. C'est-à-dire que si on prend une des premières illustrations inscrites dans la pierre des travaux de la vigne, des travaux de la taille, c'est l'abbaye d'Amiens. L'abbaye d'Amiens, au XIVe siècle, on est quand même bien au-delà de la zone qu'aujourd'hui, enfin, il y a peu de temps, on considérait comme propre à cultiver de la vigne. Donc la vigne peut monter et descendre. Hein, et on a effectivement, aujourd'hui, on s'amuse à retrouver, côté patrimonial, le fait que, je regardais l'autre jour, on avait des vignobles à Saint-Malo. Donc il y a des vignerons qui se réinstallent près de Saint-Malo, qui réinvestissent le patrimoine culturel de la vigne et du vin à Saint-Malo ou en Normandie. On a des vignerons qui travaillent. On a une association qui s'est créée, enfin quand je dis on a, en France, une association qui s'est créée en Bretagne, l'association des vignerons de Bretagne. Donc on s'aperçoit qu'effectivement la vigne, en fonction des réchauffements, des petits âges glaciaires, des variations climatiques, elle est montée, elle est descendue. Donc on est habitué, enfin si on connaît un petit peu mieux l'histoire de la vigne, on est habitué à ces évolutions et à ces changements. Après, effectivement, les changements peuvent, dans l'avenir, être beaucoup plus importants. Et là, il faut voir de quelle manière. Mais on pourrait dire que si le vignoble disparaît, si un vignoble disparaît, si par exemple en Provence, il se met à être très très difficile de faire de la vigne, bah, il n'en restera pas moins la mémoire, l'histoire, la culture. Et dans les bibliothèques, on trouvera toujours trace de ce vignoble.
Mais alors, s'intéresser à l'histoire des vignobles, où va-t-on chercher les informations? Par exemple, on sait très bien que ce sont les Romains qui ont tout de même apporté en Gaule le travail autour du vignoble, alors que les Gaulois, on les imagine buveurs de bière. C'est une réalité historique ou c'est une caricature historique?
Alors, plus on cherchera, plus on trouvera. Et effectivement, plus on cherche, plus on s'aperçoit que, bah, par exemple, il y a un rôle qui est complètement méconnu, c'est le rôle des Grecs dans la viticulture, et on les retrouve assez haut, et on retrouve leurs traces même dans des cépages. Alors, on parle là je vous parle au conditionnel, mais enfin, on est en train de regarder, on est en train de chercher. Il semblerait que la clairette, ça soit vraiment un cépage grec qui a été importé et qui marque et qui a suivi tous les comptoirs tous les comptoirs grecs en Gaule. Hein. On se demande pourquoi il y a une poche comme ça de clairette qui continue à être reconnue, qui est l'appellation clairette de Bellegarde, qui est vraiment une petite enclave. Ben, c'est tout simplement qu'à cet endroit-là, il y avait un comptoir grec qui existait et on commence à se poser la question de savoir si effectivement ce n'est pas un marqueur associé à ces comptoirs grecs. Donc plus on va chercher, plus on va remettre en question des idées. Aujourd'hui, on dit oui, il y a peut-être des Gaulois qui ont effectivement fait du vin. On a des traces, on a des pistes quand même assez certaines sur le fait de dire bah, les Gaulois, comme les autres, ils n'étaient pas idiots, ils se sont aperçus que les raisins fermentaient. Donc il y a effectivement, chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, ça va nous apprendre quelque chose de nouveau. Alors comment est-ce qu'on fait pour chercher? C'est une très bonne question pour trouver.
Quelles sont les sources?
Parce qu'effectivement,
c'est géologique.
Y a un peu toutes les sources, mais c'est vrai que quand on travaille dans un vignoble, hein, ce qui est mon cas, pour retrouver les patrimoines, pour retrouver la dynamique géographique et historique du vignoble, on a un certain nombre de documents qui ne sont pas présents tout de suite. Heureusement, il y a des documents qui sont présents sur Internet et notamment, il y a eu toute une école, on peut dire, dans l'entre-deux-guerres qui s'est beaucoup intéressée à l'histoire des régions françaises et à l'histoire de ce qui était à l'époque une culture quand même majeure qui était celle de la vigne. Donc, on a beaucoup de publications qui ont été faites entre 1918 et 1939. Donc là, on commence déjà à approcher les choses. Et aujourd'hui, quand on travaille sur ces aspects-là, eh bien, il faut qu'on réunisse, hein, on est amené à réunir des groupes, des érudits locaux, des historiens, des géographes, des géologues éventuellement, des gens qui connaissent des choses, qui ont pas mal de connaissances, ou des associations de petits patrimoines ruraux, par exemple, mais qui ne les ont pas trop portés encore à la connaissance du monde de la filière viticole ou de la filière touristique. Ce qui fait qu'il y a vraiment des données, des notions, des histoires, des bases à explorer, à utiliser, mais qui pour le moment sont un petit peu sous le radar. Parce que quand on parle du monde du vin aujourd'hui, quand on parle de ça à la filière vin, bon ben, elle a ses textes, elle a ses appellations, elle a ses IGP, et après le langage qu'elle va tenir, c'est un petit peu un langage réservé aux gens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les œnophiles, les amateurs, etc. On va leur parler cépage, on va leur parler... Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas arriver... Il n'y aura pas un discours vraiment très établi sous forme d'histoire, sous forme de déroulement chronologique ou de déroulement culturel de l'histoire du vignoble. Et quand c'est le cas, souvent, c'est des mythes. Hein. On va chercher des mythes, je le connais bien, parce que dans les cépages, on a un certain nombre d'histoires comme ça, qui sont complètement mythiques. Par exemple, on vous parle de la counoise, qui est un cépage qui, lui, est sans doute très approprié en matière de réchauffement climatique. Et on vous raconte. Et alors, une fois que quelqu'un a raconté quelque chose aujourd'hui, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, et tout le monde répète la même chose. Donc, on vous raconte que la counoise, c'est dû au nom d'un vice-légat du pape qui avait amené ce cépage d'Espagne à la cour des papes à Avignon. Et que ce vice-légat des papes, il s'appelait Cuneza. Et donc, il a donné ce nom-là, son nom au cépage. Manque de peau, on a vraiment toute la liste des vice-légats du pape. Donc, on sait très bien qu'il n'y en a aucun qui s'appelait Cuneza. En plus de ça, à l'époque où on dit que l'histoire s'est passée, l'institution des vice-légats du pape n'existait pas encore. Donc, voilà. Et on est confronté à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de domaines comme ça. On a un cas absolument extraordinaire avec le Romorantin, dont on dit qu'il a été apporté par François Ier de Romorantin à Chambord, etc., ce qui est complètement impossible. Alors voilà, il faut faire la part de la mythologie et de la vraie histoire. Donc on a les données. Ces données, pour le moment, ne sont pas exploitées. Il faut les exploiter. Il faut les exploiter pour deux raisons. Parce qu'on a comme ça des histoires à raconter. Et les gens adorent quand on leur raconte des histoires vraies. Hein, les touristes, les consommateurs, etc. Vous savez, il y a quand même une branche du marketing qui s'appelle le storytelling. Et on a énormément de marques de spiritueux, énormément de marques dans tous les domaines qui utilisent ce storytelling. Dans le vin, on a des masses énormes d'histoires et on ne les raconte pas. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Et puis le deuxième point important dans l'exploitation de ces données historiques, c'est de comprendre l'histoire des vignobles. Et c'est très important de comprendre pourquoi un vignoble il est là, pourquoi il est resté, pourquoi il a disparu, pourquoi il est revenu, pourquoi... Ça fait partie de la compréhension à la fois d'une dynamique géographique et historique d'un vignoble, mais comme la civilisation du vin, elle est vraiment très très liée à l'histoire de France, ça nous explique notre histoire à nous.
50 jours pour comprendre autrement le vin. Nous ne disposons que d'une heure aujourd'hui dans Wagon Livre. C'est André Derieux qui signe cet essai chez Ellipse. On marque un premier intermède musical et on se retrouve avec notre invité dans une poignée de minutes.
Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, 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 nanai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei. Tra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola. Vida.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est André Derieux qui nous accompagne jusqu'à midi à bord de Wagon Livre pour son essai paru chez Ellipse, disponible donc en librairie et intitulé 50 jours pour comprendre autrement le vin. Alors André, il y a des aspects absolument passionnants, des aspects historiques qui moi m'intéressent beaucoup. Lorsque j'étais lycéen, notre professeur de latin nous disait que les Romains produisaient un vin qui était très très fort. C'était la raison pour laquelle ils le coupaient avec de l'eau. Est-ce qu'on peut confirmer ce fait ? Ma professeure de latin ne disait pas de sottises.
Ah, ça remonte même à l'époque grecque, hein, où effectivement on avait des vins qui étaient très extraits, qui étaient très épais. Et effectivement, il fallait les accompagner d'eau, il fallait les couper d'eau. Donc ça, c'était vrai en Grèce, c'était vrai à Rome. Et quand le vin est arrivé en Gaule, les Gaulois se sont signalés, hein, nous disent les rapports officiels de l'époque, se sont signalés par le fait qu'ils buvaient le vin pur. Hein, donc forcément, c'était des barbares. Mais le vin, c'était vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on connaît maintenant. Le vin était non seulement très épais, mais en plus de ça, il était aromatisé. On a rajouté des herbes, on a rajouté tout un tas du miel, on a rajouté.
Oui.
Et les Grecs.
De l'eau de mer même. De l'eau de mer. J'ai lu dans votre livre des épices, des aromates.
Absolument. Et l'autre jour, j'étais au musée de Lattes, à côté de Montpellier. Et dans les accessoires vinaires, on a une râpe à fromage. Alors on se dit, tiens, pourquoi il y a une râpe à fromage ? Bah, parce que les Grecs, donc, qui étaient présents, enfin, du moins, qui avaient apporté cette mode-là sur la côte de Montpellier, les Grecs râpaient du fromage dans leur vin. Voilà, c'était un mélange d'aliments et de boissons.
J'ai appris en vous lisant qu'au Moyen-Âge, alors dans les vins blancs un peu secs, on y ajoutait alors des piments, du gingembre et de la sauge. Aujourd'hui, ne serait-ce que mettre un... Est-ce qu'on peut mettre un glaçon dans son verre de vin rosé, André Derieux ?
Ça dépend le point de vue que vous adoptez. Si vous adoptez le point de vue de quelqu'un qui veut répondre aux besoins du marché, aux souhaits du marché, on peut mettre des glaçons dans les
Mais c'est une abomination.
Bon, ça dépend, oui. Enfin, un vin se boit effectivement sans... De la même manière qu'en whisky, en fait. Hein. On invente aujourd'hui des glaçons qui ne fondent pas, hein, des glaçons en acier qu'on met au congélateur et qu'on ressort. En principe, on préfère boire les vins tels qu'ils ont été produits par leur créateur, par leur vigneron. Mais voilà, le marché décide parfois que le cognac se boit en long drink, en cocktail, etc. Mais ce qui est important, c'est ce que vous disiez sur le mélange avec les herbes aromatiques. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment duré beaucoup plus longtemps et qui s'est développé parce qu'on considérait que le vin, c'était aussi un médicament. Donc on le mélangeait avec d'autres herbes, avec d'autres plantes. Et ça s'est prolongé assez longtemps, puisque au XIXe siècle, il y avait la grande mode des vins toniques, des vins fortifiants à base de quinquina, hein, vous savez, la quinine. Là. Et donc c'était quelque chose qui était, bon, c'était à la fois une excuse pour boire du vin, parce que c'était censé soigner pas mal de choses, mais voilà, ça a fait partie des modes. Il faut savoir que le Coca-Cola, par exemple, est issu d'un de ces vins toniques. C'était le vin Mariani, c'était un entrepreneur corse qui avait inventé ce vin, donc un vin mélangé avec différents produits. Et ensuite, la recette a été copiée, parce que ce vin-là a été très célèbre. Mariani était très fort pour faire de la communication, pour faire de la publicité. Il avait réussi à embaucher des présidents, des papes, pour faire, il leur envoyait des bouteilles, il répondit en disant « Oh, c'est vraiment très bon votre vin, je me sens mieux, etc. » Et lui, il publiait les lettres, les photos des papes, etc. Donc c'était un très grand communicant. Et son vin était mondialement célèbre. Et un jour, il y a un pharmacien de Pemberton aux États-Unis qui a copié son vin. Et un jour, il y a eu la prohibition. Donc il a été obligé d'enlever le vin du vin qu'il avait copié. Et c'est devenu le Coca-Cola.
Une histoire absolument incroyable et ignorée de beaucoup.
Voilà, et des histoires comme ça, il y en a des milliers.
Alors, au XVIIIe siècle, il y a un objet qui fait son apparition et qui va être extrêmement important pour identifier le vin et le transporter. Aujourd'hui, ça paraît anodin, mais l'invention de la bouteille de vin est une révolution.
Absolument, bien sûr. C'est un lien d'ailleurs avec les vins dont on parlait tout à l'heure, qui étaient des vins médicinaux. Hein. C'est-à-dire qu'avant, bah, effectivement, on achetait des barriques de vin, on les mettait en perce, on allait chercher du vin avec une cruche dans la cave, éventuellement dans une carafe en cristal, etc. Et en fait, la bouteille a été inventée. Bah, c'était inventé pour mettre des parfums, pour mettre des médicaments, pour mettre des baumes, pour mettre et des vins un peu médicinaux. Et sur la côte du Languedoc, il y avait des vins qui étaient considérés comme médicinaux. Donc c'était les muscats, c'était les vins aromatisés aux herbes, ce qui a donné lieu aux bières, à tous ces types de vins-là. Et en fait, une des premières bouteilles, c'était une bouteille pour le muscat de Frontignan, parce que c'était considéré comme précieux, parce que c'était un vin qu'on retrouvait déjà sur les tables des papes ou des princes ou des rois. Et ben cette bouteille de Frontignan, c'est le vrai nom de la bouteille bordelaise. Techniquement, dans un catalogue, on commande une Frontignan. C'est resté cette bouteille-là. Donc voilà, c'est une invention qui est liée à la préciosité et au caractère salutaire et même sanitaire de certains vins.
Alors on a l'impression que beaucoup d'idées ont germé en Provence, en Méditerranée, mais finalement vous citez un historien, c'est Roger Dion, qui dit que le vignoble français est un monument romain. Nous devons tout aux Romains finalement, en grande partie.
Oui, on a une grande partie de la construction du vignoble qui a suivi les fleuves. Et les Romains étaient effectivement suivaient ces fleuves, c'est-à-dire que le vin est remonté par le Rhône. Il a ensuite, il y avait un peu moins de fleuves, il est passé sur le sud-ouest, mais à ce moment-là, il a utilisé la Garonne et ses affluents comme le Tarn, etc. Donc il y a eu effectivement cette construction sur la base des moyens de transport fluviaux et des voies d'eau. Et après, il y a eu effectivement un certain nombre d'apports qui ont été faits sur la vinification elle-même, sur des standards qui sont utilisés encore aujourd'hui et qui sont effectivement, y compris dans les structures des classements des vins. Enfin, il y a eu énormément de choses. Mais il ne faut pas que ce côté monument romain empêche de voir les particularités qui étaient celles des Grecs, celles des Gaulois et après des évolutions qui se sont fait jour après la chute, comme on dit, de l'Empire romain.
Alors ce qui est intéressant, c'est aussi toute l'évolution historique. C'est absolument passionnant. 1850, le champagne qui fait son apparition quand même dans les hautes sphères de la société française. Hein, évidemment, ouais. On ne boit pas de champagne
à l'estaminet.
Dans la Saumoire, les ouvriers de Zola.
Il se répand à ce moment-là. Ouais, ouais.
En 51, c'est la naissance du Beaujolais nouveau. En 68, pardon, l'apparition des vins de pays. Et alors, il y a une vague grandissante des vins rosés. Alors maintenant, c'est devenu tendance. Il y avait, me semble-t-il, avant un regard un petit peu méprisant à l'égard des rosés. Non,
il y a eu un creux, parce qu'il faut voir qu'à une époque, les vins, enfin beaucoup de vins, on ne peut pas faire de généralité, mais enfin, il y avait beaucoup de vins, il n'y avait pas de macération, il n'y avait pas de... donc on buvait du clairé à Bordeaux, c'était du vin léger, du vin de couleur relativement claire. Donc ça, on peut dire qu'il y a eu une grande partie de l'histoire où on buvait du rosé sans prononcer ce nom. On appelait ça le vin gris, on appelait ça... Et c'est pour ça qu'il y a quand même des appellations qui ont une tradition très très, 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 très lointaine, comme à Tavel, de vin rosé, ou comme le rosé d'Hérissé en pleine Champagne. Donc après, il y a eu un trou, ça c'est des changements de mode, on préfère le blanc, on préfère le rouge, etc. Aujourd'hui, je pense que l'apparition du rosé, c'est plus une façon de pas mal de consommateurs de réagir au vin. Si on leur dit le mot vin, ça paraît tout de suite très compliqué. Ça paraît compliqué dans l'approche des appellations, des IGP. Ça paraît compliqué pour le goût. Ça paraît compliqué dans un certain nombre de cérémoniales, etc. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le vin. Et après, quand ils disaient « moi, je ne bois jamais de vin », on leur dit « vous buvez du champagne de temps en temps ». Ah bah oui, ouais, on leur dit « c'est du vin ». Et le rosé, ça a été, c'est un petit peu, je crois, une échappatoire à ce manque de confiance en soi par rapport au vin. Parce que quand on boit du rosé, bah, on ne boit pas du vin. Si on veut, on peut mettre 4 glaçons dedans, comme vous disiez tout à l'heure. On peut le boire en cubis, on peut rajouter... On le voit bien sûr, les industriels du vin se sont lancés là-dedans. Hein. On rajoute du jus de pamplemousse,
voilà,
on rajoute plein de choses, etc.
Oui, oui.
Donc on est bien sûr dans le monde du vin. Techniquement encore, ça reste à voir pour le rosé pamplemousse, mais on reste quand même dans le monde du vin, mais on est quand même complètement en dehors, dans l'appréhension, dans ce que demande le monde du vin, si vous voulez.
Précédemment, André Derieux, je vous parlais des glaçons dans le rosé. C'est aussi ce rappel où vous expliquez dans votre essai « 50 jours pour comprendre autrement le vin », vous nous expliquez, alors ça c'est jubilatoire, qu'à la cour d'Henri, on aime mettre de la neige ou de la glace dans le vin.
Oui,
c'est absolument magnifique de voir ces évolutions, les méthodes et les goûts aussi qui ont considérablement changé.
Voilà, les goûts qui changent et qui changent aussi en fonction de ce qu'on peut... la façon dont on peut se faire valoir par ses goûts. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de Talleyrand qui, à l'époque où les saumons étaient rarissimes, avait fait exprès de préparer deux saumons et à ses hôtes, il a servi le premier saumon et le serviteur est tombé et le saumon est parti par terre. Il était plus consommable et Talleyrand, à ce moment-là, a dit « ça ne fait rien, qu'on en apporte un autre ». Donc ça, c'était une question. Il y avait le goût pour le saumon, mais il y avait aussi une façon de montrer que j'avais les moyens d'offrir du saumon. Et c'est vrai que la neige dans le verre, je ne sais pas si vous voyez le tableau au 16e ou au 15e siècle, ben, il faut la faire venir, la neige, pour la mettre dans le verre. Donc c'était quand même réservé à des gens qui pouvaient entretenir des glacières et des gens qui faisaient le trajet depuis les neiges jusqu'aux glacières.
Nous allons marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle que c'est André Derieux qui nous accompagne. Je rappelle aussi au passage le titre de son travail et essai, parce que c'est un livre qui demande du travail, de la recherche, des compilations. On met en avant aussi ses connaissances, le fruit de ses rencontres, de ce qu'on a glané dans les musées et ce qu'on a entendu autour de soi. Ça doit être assez passionnant, mais très prenant aussi.
Le but, c'est d'aller chercher un déclic culturel, de dire tiens, mais ça, finalement, on n'en a pas parlé ou on n'en a pas assez parlé sous cette forme-là. Et après, bon, on va chercher de la documentation. Et puis après, le plus dur, c'est de le rendre intéressant, agréable à lire, pas pompeux, pas trop technique, etc.
50 jours pour comprendre autrement le vin, c'est le titre du travail d'André Derieux que nous retrouvons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
S'effondre dans le silence et l'oubli.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps passe vite avec André Derieux, notre invité aujourd'hui, et la lecture de son essai 50 jours pour comprendre autrement le vin est extrêmement distrayant. On y apprend énormément de choses. Par exemple, j'ai appris d'où venait l'expression boire un canon.
Oui.
En fait, c'est tout bête. Encore faut-il le savoir.
Mmh,
André
tout à fait.
Derieux, boire un canon. En fait, c'était une unité de mesure, le canon. Ça, c'est, alors, l'expression vient du 19e siècle. Mais par exemple, vous avez rappelé l'importance du vin en tant que panacée médicinale.
Oui.
Il y a aussi, n'oublions pas, la religion a fait grande consommation du vin. Le vin de messe, je veux dire, il n'y a pas non plus de développement du vignoble et de la vigne sans le travail des petits moines de nos abbayes.
Bien sûr. En fait, pour vraiment synthétiser au maximum, on peut dire que la vigne était partout jusqu'à très récemment, jusqu'à l'époque du phylloxéra, jusque dans les années 50, on pourrait dire. La vigne était à l'école, le vin était à l'école, le vin était servi à l'école jusque dans ces années-là. Donc la vigne était partout et le vin était partout. Le vin, c'était une panacée, on en a parlé. Le vin, c'était un aliment. Le vin, c'était un aliment comme les autres. Alors aujourd'hui, on s'étonne, on dit « faire chabreau ». Vous savez, faire chabreau, c'est pour finir sa soupe, on versait un petit verre de vin dedans. C'était simplement l'alliance de l'aliment, la soupe, et de la boisson, le vin. Il y avait la trempée aussi. On avait des tranches de pain, on les trempait dans le vin. Ça pouvait être sucré, ça pouvait être salé, etc. C'était le mariage de l'aliment et du vin. Et le vin servait à tout. Alors, il y a effectivement une longue antériorité pour ce qui est de la religion, hein, notamment de la religion catholique ou la religion protestante. Il y a effectivement une grande utilisation du vin. Mais ça, c'est effectivement, comme vous disiez, passé par les monastères. Et ce qui est intéressant dans les monastères, ça fait partie d'un des petits déclics de compréhension qu'il est important d'avoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de monastère, on voit une communauté de moines ou de moniales relativement réduite, un petit peu fermée sur elle-même, consacrée à des travaux de prière ou d'études, à part quelques monastères qui font du fromage ou qui font de la chartreuse ou des choses comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque dont on veut parler, au Moyen-Âge, enfin dès le 6e siècle, sur une grande partie du Moyen-Âge, les monastères, c'était les multinationales de l'époque. C'est-à-dire qu'ils s'installaient quelque part, ils défrichaient, ils plantaient, ils cultivaient. Il fallait qu'ils boivent, hein, c'était même indiqué dans les règles des monastères, il fallait qu'ils boivent telle ou telle quantité de vin.
Et accueillir, le partager aussi avec les pèlerins.
Voilà, il fallait accueillir les pèlerins, il fallait accueillir des blessés, des malades. Et comme on l'a dit, on soignait avec du vin, donc il fallait là aussi pas mal de vin. Il fallait accueillir des nobles qui voyageaient et qui s'arrêtaient dans les monastères. Donc il fallait servir des vins quand même de bonne qualité, de haute qualité. Donc il y avait vraiment un besoin très très important de vin. Donc oui, ils ont contribué dans leur rôle économique et dans leur rôle social, ils ont contribué au développement de la vigne de manière très très importante. Et là, c'est un phénomène, effectivement, je parle principalement de la France, mais c'est un phénomène européen, c'est-à-dire mondial à l'époque, hein, monde occidental.
Et puis ce qui est passionnant aussi, c'est d'apprendre qu'un tonneau de vin pouvait être aussi une monnaie d'échange.
Absolument.
On troquait un tonneau de vin contre, je ne sais pas moi, du textile.
Absolument, tout à fait.
C'est absolument passionnant.
Tout à fait. Et c'est vrai que le rôle des monastères qui était de produire du vin, à un moment, ça a été d'exploiter des vignobles. Et le vin devenait purement et simplement une source de revenus très importante. Et qui a permis aux monastères de jouer un rôle dans certaines régions, y compris la Bourgogne, la Franche-Comté, de jouer un rôle de financier important.
Le vin animait vraiment les vies économiques et religieuses de la France jusqu'à une certaine époque. Quand considérer que le vin, c'est un petit peu l'hygiénisme, les précautions de santé, les lois
de
restriction
Oui, c'est très difficile à dater parce qu'il y a plusieurs époques, il y a plusieurs moments qu'on peut dater pour la montée en charge, il y a plusieurs moments qu'on peut dater pour la décroissance. Mais ce qui est important dans cette approche du monde du vin sous l'angle culturel, c'est que ça fournit des histoires, comme on disait tout à l'heure, mais ça fournit aussi des moyens de compréhension, pas seulement du monde du vin, mais de la civilisation française, parce que justement, il y a un tel lien qui est fait entre, qui s'est fait pendant tous ces siècles entre la vie de la France et la vie du vin, oui. de la viticulture et du vin, que expliquer le vin, c'est expliquer la France.
Et d'ailleurs, durant la guerre 14-18, le vin a permis aussi de tenir le moral des troupes. C'était indispensable de fournir du vin aux poilus, quoi.
Voilà,
au
là,
point même
été...
que les états-majors disaient « prenez soin des tonneaux
oui,
parce
tout
que
à
c'était
fait.
Précieux pour le transport du vin, pour l'amener sur,
voilà.
sur le
il y a
front. »
Il y a eu effectivement une petite action de propagande qui a été menée par le général chargé de l'intendance à l'époque, qui du coup, cette action ayant bien réussi, a été nommé maréchal. Et il y avait des affiches qui ont été distribuées qui disaient « le vin, il y en aura toujours. Par contre, les barriques, faites-y attention parce que ça nous sert à transporter. Donc soyez économes, soyez prudents, soyez protégez vos barriques parce que là, c'est plus difficile. Les barriques, il faut du temps pour les faire, il faut abattre des arbres, etc. etc. » Et effectivement, cette période de la guerre de 14, bon, ben, pour une grande partie pour le pire, ça a été une période de consommation, d'expansion. C'est là que le vignoble du Languedoc s'est développé, puisqu'ils ont offert, dès le début de la guerre, ils ont offert du vin pour ceux qui montaient au front. Et après, ils l'ont vendu. Hein, ils ne l'ont plus offert, ils l'ont vendu. Et les rations de vin ont progressé tout au long de la guerre pour soutenir les troupes. Mais effectivement, ça montre bien que cette époque-là, c'était vraiment un lien. Le vin était tramé avec la vie de la France. Quand les poilus sont partis en 14, août 14, ils ont dit on sera de retour pour les vendanges.
Oui. Oui. Non, il n'en fut rien, en fait.
Oui.
Nous parlions précédemment du tonneau de vin utilisé au Moyen-Âge dans certaines circonstances comme monnaie d'échange. Par exemple, pour André Derieux, vous nous confiez le record mondial actuel du prix d'une bouteille. Alors, vous mentionnez une bouteille de Romane Conti 1945 qui a été acquise aux États-Unis pour la somme de $558 000. Est-ce que ce n'est pas un peu choquant? Le prix de ces flacons, quand bien même ils sont beaux et anciens. Quel est sur le prix de ces bouteilles exceptionnelles?
Oui, mais on est dans les différentes facettes du monde du vin. On a le vin qui va nous servir tout à l'heure, je l'espère, après l'émission, à boire un verre de manière conviviale. On a le vin qui, le week-end prochain, en famille, va nous servir à célébrer un moment familial plus fort. On a le vin qui est celui du collectionneur. Et effectivement, il y a un moment, on bascule dans des vins qui sont des vins de...
Des vins placements.
Des vins, effectivement, de prestige. Et ça fait partie de la vie du vin. De la même façon qu'en matière artistique, eh bien, on peut avoir un poster dans notre chambre, on peut avoir un tableau, on peut avoir... et puis, on a des œuvres d'art qui n'ont plus de rapport avec la réalité. Mais on est sur... Le vin a des facettes et le vin a des marchés complètement différents.
Alors, je parlais là de cette bouteille de Romane Conti 1945. Et en vous lisant, André Derieux, là aussi, c'est passionnant. Le plus vieux vin du monde, il se trouve en France, en tonneau, à la cave historique des Hospices de Strasbourg. C'est un vin qui daterait de 1472, comme diraient nos voisins et amis... Helvète, 1472, c'est exceptionnel.
Voilà, oui, c'est un moment. Alors là, ça fait partie effectivement des héritages, des hospices qui ont eux-mêmes hérité de dons et de cadeaux variés. Et voilà, la cave de Strasbourg a gardé trace de ce... Alors, il est houillé régulièrement, donc je ne sais pas vraiment la proportion qui doit rester. De houillé, ça veut dire qu'on complète, parce qu'il y a une évaporation qui se fait dans ces fûts, dans ces vaisseaux. Et on ne sait pas vraiment quelle est la proportion de 20 472 qui reste. Mais enfin, voilà, le monument et l'histoire et le storytelling est là.
Alors, on a parlé et on a bien compris que cet essai s'adresse à différents publics, mais que c'est aussi et surtout une volonté de rappeler que le vin est un produit culturel, chargé d'une histoire, d'un passé, Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et alors justement, sur l'approche du vin, l'approche, j'allais dire, sensorielle, vous citez Henri Jaillet, vigneron bourguignon, qui disait, déclarait apparemment, le vin est fait pour être bu, pas pour être reniflé. Alors André, pour ne pas être ridicule en société, comment doit-on se comporter quand on nous sert un bon Bordeaux ou un bon Bourgogne dans un vin? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire déjà?
Alors ça, ce qu'il ne faut pas faire,
qu'est-ce
qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que la dégustation, aujourd'hui, tout le monde s'entend sur le fait qu'effectivement, on a d'abord une partie très rapide qui consiste à regarder le verre et de voir sa brillance, de voir... Cette partie-là, elle était très importante à une époque où les techniques œnologiques n'étaient pas forcément maîtrisées par tout le monde et on n'aimait pas les vins troubles, on n'aimait pas les vins qui avaient des couleurs un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est une partie un petit peu formelle de regarder la couleur du vin. Ne serait-ce, on la regarde par plaisir pour voir quelle est la couleur, mais c'est pas un indicateur de, ça peut pas être un indicateur de problème puisque en principe il y a pas de problème. Ensuite, il y a le nez. Et le nez, bon, il y a le premier nez, on met son nez dans le verre qui est tranquille. Ensuite, on agite de manière circulaire son verre et on respire et on a là le deuxième nez. Et cette partie du nez, aujourd'hui, beaucoup disent qu'elle est devenue trop importante.
Alors, il faut qu'elle
faut est devenue trop
de
importante,
aussi,
pas depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, qu'on attache trop d'importance aux arômes de fruits, aux arômes des arômes primaires, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais on est trop axé sur le nez. Et ensuite, une fois que le vin est, comme disait Henri Jaillet, une fois qu'on l'a reniflé, il faut le boire. Et aujourd'hui, on a une école, notamment bourguignonne, avec Jacques Hérigaud et la dégustation géosensorielle, et bien d'autres qui disent finalement l'important c'est l'impression que fait le vin en bouche, quand on l'a en bouche, quand on le tâte en bouche, vous savez l'expression le tâte vin, on tâte le vin en bouche, on a un toucher de bouche, et là on va pouvoir apprécier les tanins, on va pouvoir apprécier le velours, on va pouvoir apprécier la soie, on va pouvoir toucher le vin. Et aujourd'hui on commence à revenir sur cette impression de bouche. Et historiquement, on s'aperçoit que finalement, si on lit Balzac, on parlait de Balzac tout à l'heure, tous les dégustateurs, les vignerons, tous ceux qui boivent du vin dans Balzac, ne font finalement de commentaires que sur la bouche. On parle de râpe, ce sont des impressions tactiles, ce sont des impressions qui, aujourd'hui, c'est là qu'on commence à se dire, c'est là finalement, c'est sur la longueur de bouche et le toucher de bouche. Et les tanins, on a un livre formidable qui vient de paraître sous la plume de Marc-André Selosse sur les tanins, qui joue ce rôle-là.
Et ça demande aussi d'avoir un vocabulaire très riche pour qualifier un vin au goût, même visuellement.
Bien sûr, là c'est un vaste problème, effectivement, d'avoir un éventail de déjà bien ressentir ce qu'on ressent, de bien pouvoir l'identifier, un peu comme devant une œuvre d'art, c'est pas non plus très, très évident, et d'avoir les mots qui correspondent. Mais qui correspondent à quoi? Qui correspondent peut-être aux mots que moi je veux utiliser avec ma sensibilité.
Alors, 50 jours pour comprendre autrement le vin, alors j'y ai appris des choses absolument merveilleuses, que par exemple le vin, à une certaine époque, a servi à fabriquer de l'encre.
Absolument,
les écoliers, c'est absolument. Ouais. Et que les corbillards ont, dans un premier temps, transporté du vin.
Voilà, c'était les bateaux, c'était les voituriers paro de Corbeil, à côté de Paris, qui y avait des vignes et il y avait du vin et ils amenaient le vin à Paris. Et c'est très curieux parce que il y a eu comme ça des transports qui étaient liés. Il faut savoir que les courtiers piqueurs de vin de Paris, ceux qui authentifiaient les vins à l'arrivée, en termes de qualité, en termes de buvabilité, etc. À un moment, ils ont été chargés des enterrements. Donc c'est très curieux de voir ce rapport qui se fait entre la vie, parce que le vin c'est la vie, et la mort qui est celle des transports et des inhumations, des transports de corps et des inhumations.
Alors bien évidemment, notre échange ne rend pas complètement compte de la richesse de l'ouvrage et de toutes les thématiques qui y sont abordées. Hein. Le vin, c'est du vent, les arbres et le vin, voilà certains des chapitres, la minéralité et l'inconscient, les vins les plus étonnants, le vin Second Empire. Hein. Donc là, c'est dans la partie histoire que je trouve absolument passionnante, André. J'avoue, là, le côté histoire du vin, son évolution et les surprises qu'il nous réserve, c'est absolument captivant. Et puis l'aspect culturel aussi, la grappe de Canaan, Saint-Vincent, le patron des vignerons, mais enfin, il n'y a pas que lui, vraisemblablement, il y en a eu d'autres.
Bien sûr, il y a des concurrents. Énormément de saints dans toutes les régions, voire même dans toutes les paroisses. Et certains saints de paroisse devenaient des saints des vignerons parce que la paroisse était vigneronne. Mais il y a effectivement beaucoup d'histoires à raconter.
Le vin et la chanson aussi.
Tout hein, à fait.
Lamartine Vigneron, À la recherche du vin de Proust, Petite bibliothèque littéraire du vin. Voilà des chapitres qui nous mettent en appétit. En tout cas, notre émission était une mise en bouche, André.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut dire une chose, c'est que quoi qu'on prenne, par exemple dans cette pièce autour de nous, quel que soit l'objet qu'on prenne ou le mot qu'on prenne, on va arriver sur le vin si on se met à en parler. Pendant les vacances, je suis allé me baigner sur la plage des Chalets, vous savez, celle qui est célèbre d'après le film, depuis le film 37-2 le matin, la plage des Chalets de Gruissant. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi il y a une plage ici avec des chalets? Pourquoi ces chalets sont là? Et ben, en fait, ça remonte à l'époque, au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e, où les vendangeurs venaient du haut pays du Languedoc dans les vignes du bord de mer, de la Clape, etc. Venaient vendanger. Ben, pour se loger, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait des vignes, il y avait des forêts, il y avait des étangs. Et donc, ils venaient sur cette plage des chalets, et ça a été les premiers à construire de briques et de broc avec des charrettes, des toiles de jute, etc., des campements. Et ces campements, ensuite, sont devenus, au fil du temps, des habitations et des chalets. Donc, dès qu'on prend un élément comme ça, si on cherche un peu, on a du vin et de la vigne derrière.
Merci André Derieux pour ces précisions et explications. Donc la vigne et le vin qui racontent une épopée éternelle et constituent un véritable continent de connaissances, connaissances qui se trouvent à l'intérieur de l'ouvrage de notre invité, dont je rappelle le titre, hein, 50 jours pour comprendre autrement le vin. C'est sous la plume de André Derieux qui était aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre et l'ouvrage est disponible chez Ellipse. Dans toutes les bonnes librairies, parce qu'il y a des bonnes caves, mais il y a aussi de bonnes librairies. Merci André Derieux.
Merci Yannick.
Je remercie bien sûr toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur Radio Neige. Je leur donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, pour un nouveau numéro de Wagon Livre. En attendant, excellent congé de fin de semaine. Au revoir et bien sûr, à samedi prochain.